Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 3 de ITCast, le podcast de l'IT de Microsoft France. Donc, je suis Pascal Solière et puis je suis en ligne avec Stanislas Kwastana. Bonjour Stanislas.
Bonjour Pascal.
Ça va bien ce vendredi, veille de week-end ?
Eh bien, écoute, plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal de nouveautés également. On a eu plein d'annonces hier, jeudi. Et donc, ça va être l'occasion d'en discuter.
Voilà, donc... Donc tout d'abord, je voudrais annoncer que juste après notre petite phase de petites nouveautés, nos petites infos, je diffuserai l'interview que j'ai faite ce matin de Fabien Dibault, donc un MVP PowerShell qui va nous parler de PowerShell en long, en large et en travers. Donc si vous avez jamais entendu parler de DSC, ni de PowerShell d'ailleurs, écoutez bien, vous aurez plein de petites infos. Stanislas, donc les actualités. On va peut-être commencer par ce qui s'est passé cette semaine. On a eu un Azure Camp mardi 9 décembre.
Oui, alors petit rappel du principe d'un Azure Camp. C'est une journée dédiée à Azure sous toutes ses formes, soit du côté, on va dire, développement et gestion des données, soit du côté infrastructure avec l'infrastructure de service. Donc c'était l'occasion de faire un point un petit peu sur les technos qui étaient actuellement disponibles, ceux qui étaient en train d'arriver, et puis un petit peu les bonnes pratiques pour utiliser tout cela. Donc, cet événement, se passait en fait donc au campus de Microsoft à Paris, et donc était ouvert au public, et on a eu à peu près 350 personnes participant, on va dire, physiquement présent, et un petit peu plus de 3500 connectés en streaming en ligne également.
Ouais, donc un gros succès pour cet événement. Et donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la vidéo après coup, donc la vidéo enregistrée de l'événement, est disponible sur le lien qu'on vous mettra sur l'article lié à ce podcast.
Exactement.
Donc deuxième info, vous savez qu'en février, le 10, 11, 12 février, se passent les Tech Days à Paris, au Palais des Congrès. Donc le site des Tech Days est ouvert. Donc ça c'est la nouvelle, le site des Tech Days est ouvert. Donc vous pouvez aller sur l'URL simplifiée mstechdays.fr. Et là vous aurez déjà les grands principes de l'événement, quelques sessions qui sont pré-annoncées. Mais je crois que beaucoup plus de sessions seront en ligne pour consultation à partir de très bientôt, je pense la semaine prochaine.
Oui, on va dire qu'à partir de peu près mi-décembre, mi-décembre, on devrait avoir une grosse partie de l'agenda final qui sera disponible en consultation en ligne. Donc vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et puis doucement vous pourrez construire votre agenda et commencer à planifier un petit peu les sessions, les thèmes qui vous intéressent.
Voilà, donc si on revient maintenant à nos petits sujets d'intérêt technique, une première nouvelle, je crois, que tu as sur Azure ImoTap. On en a déjà parlé, mais cette fois-ci...
Alors cette fois-ci, c'est enfin disponible. On a la GA qui a été annoncée, donc la General Availability, en anglais dans le texte. Donc en gros... la version finale est utilisable dès aujourd'hui en production. Donc, juste pour rappel, hein, ImoTap permet en fait d'exécuter dans des machines virtuelles Windows des applications en fait, et de s'y connecter à distance avec les outils de clients de bureau à distance qu'on peut trouver soit sous Windows, macOS, Android, Apple, Windows Phone, en gros toutes les plateformes. Donc c'est, on va dire, une sorte de boot VDI, mais dans le cloud public.
Et d'ailleurs, à propos de clients RDP, Remote Desktop pour Android, je crois qu'il y a une autre nouvelle.
Eh bien, on a annoncé également, ou l'équipe produit a annoncé il y a 2 jours, la mise à disposition sur Google Play d'une nouvelle version en fait, du client bêta. Donc on est sur les versions 8.1.4. Et parmi les nouveautés ou les améliorations faites sur ce client de bureau à distance, on a donc le support des passerelles terminal serveur, donc les remote desktop gateway, donc qui ont été un peu améliorés dans leur gestion. On a également l'ajout du support de tout ce qui est les flux RSS pour obtenir les ressources liées à l'utilisateur, ce qu'on appelle le remote resource feed, qui permet effectivement à l'utilisateur de simplement saisir son adresse email et son mot de passe, et automatiquement le client va chercher sur une plateforme qui est sous la forme d'un flux RSS, les applications auxquelles il a droit et lui expose ensuite les remote apps directement dans l'interface sans que le client, l'utilisateur n'ait rien à faire.
Ok. Donc, autre info, alors ça c'est un énorme article, ils nous ont régalé là sur le blog de Active Directory, avec un article qui récapitule toutes les nouveautés de l'année sur Azure Active Directory, et il y en a pas mal.
Exactement, alors nouveauté de l'année, surtout nouveauté également, il y a eu d'autres choses qui ont été annoncées en fait dans les bonnes nouvelles. Alors déjà dans les petits chiffres, c'est rigolo, c'est que désormais sur Azure Active Directory, on a aujourd'hui 4 millions d'organisations, de clients qui l'utilisent, ce qui est plutôt pas mal. Et donc ça représente au final, en nombre d'authentifications qui ont déjà été effectuées par Azure Active Directory, un trillion. Et sais-tu à quoi correspond le trillion, Pascal ?
Eh ben non, mais tu vas me le dire, parce qu'entre le système américain et le système français, on n'est pas toujours d'équerre entre les deux.
Effectivement. Alors, je pense que le système américain est comme le système français, si je ne dis pas de bêtises. Alors, si on est sur le système français, ce qui me paraît être le cas, je pense, le trillion représenterait en fait 1000 milliards.
D'accord.
C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup.
C'est beaucoup. C'est un terrain.
Oui, on peut voir ça comme ça, Pascal. C'est un terrain d'authentification.
Voilà.
J'avais pas pensé le voir comme ça. Tu vois, tu changes ma vision de la journée. Donc voilà, on va dire c'est beaucoup. Tout ça pour dire que c'est beaucoup et que en gros, c'est vraiment massivement utilisé. Enfin, de toute façon, imaginez bien, effectivement, 4 millions de clients. D'organisations qui consomment Azure Active Directory, ça fait beaucoup d'authentification. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait annoncé la disponibilité d'Azure AD Premium et son inclusion entre guillemets dans une sorte de gros package qu'on appelle Enterprise Mobility Suite (EMS). Donc, on avait annoncé ça en mai. Il y a toujours des bouts d'Azure Active Directory qui sont en version préliminaire parce que c'est du cloud, donc ça évolue au fur et à mesure du besoin. Et donc il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui sont désormais à partir d'aujourd'hui disponibles, donc en Generally Available, donc la GA. Donc on a le Password Writeback dans le Azure AD Sync. Donc ça, Pascal, je crois que tu peux nous en parler un petit peu peut-être.
Oui, en deux mots, le Password Writeback, c'est nécessaire lorsque l'on veut repatrier dans l'Active Directory interne, pardon, notre Windows Server Active Directory dans notre data center, les changements de mot de passe ou les resets de mot de passe que l'on fait dans le cloud. C'est une nouvelle possibilité. Je crois que c'est une fonctionnalité premium de Azure Active Directory Premium de pouvoir resetter son mot de passe soi-même en libre service.
Exact.
Et donc, évidemment, si on fait un reset de son mot de passe dans Azure Active Directory, il faut bien avoir cette écriture en retour vers l'Active Directory interne.
Voilà. On a également en GA aujourd'hui qui est annoncé le Azure AD App Proxy qui permet en gros, qui est une sorte de reverse proxy dans Azure qui vous permet en fait d'exposer des sites web intranet à l'extérieur avec les mécanismes d'authentification d'Azure Active Directory. Donc, on a également annoncé quelques petites nouveautés. Donc là, du coup, les nouveautés sont actuellement en version préliminaire et accessibles publiquement. Donc, tu as parlé tout à l'heure du mot de passe, du reset de mot de passe en mode de self-service. Désormais, donc jusqu'ici, ce self-password reset se faisait principalement sous la forme d'un appel téléphonique ou un SMS ou un email. Désormais, on a ajouté une quatrième option pour valider la personne qui va demander un reset de mot de passe. On a intégré la notion de question personnelle. C'est des choses qui sont assez classiques dans le monde du cloud grand public. Quand tu réinitialises ton mot de passe Hotmail ou autre, on te demande des questions, le nom de jeune fille de ta maman, etc., etc. Voilà, donc ça, en gros, c'est techniquement, on apporte ça en version préliminaire dans Azure Active Directory. On a également la chose qui est, je trouve, assez excitante, même si fondamentalement c'est pas une révolution. On apporte un truc qu'on appelle les administrative units, qui sont ni plus ni moins en fait que des unités organisationnelles, des OU qu'on connaît historiquement dans Active Directory depuis depuis, on va dire, la fin de l'année 99 à peu près. Désormais, on va pouvoir faire à peu près la même chose dans Azure Active Directory et donc créer une structure arborescente qui va permettre principalement en fait de déléguer, de faire de la séparation sur les tâches administratives et de faire des politiques particulières à une branche donnée.
Et je vois dans l'article, c'est que c'est plein de PowerShell, donc ça va nous plaire, ça.
Bah, c'est plein de PowerShell parce que, comme souvent dans les versions préliminaires, les interfaces graphiques ne sont pas encore disponibles. Donc effectivement, ça se fait avec beaucoup de PowerShell. C'est plutôt documenté. À noter également, c'est que le Azure AD Premium, qui jusqu'ici était quand même assez réservé à tout ce qui était Enterprise Agreement, désormais sera entre guillemets achetable ou activable par une simple carte de crédit directement depuis la console d'administration, le portail d'administration d'Office 365. Qu'est-ce que nous avons d'autre de joli? Là, on a vu la partie Azure Active Directory. Eh bien, il reste encore d'autres choses qui ont été annoncées hier, ce qui est plutôt intéressant, autour de tout ce qui est machine virtuelle et stockage dans Azure.
Donc, alors, ce fameux stockage haute performance pour les VM dans Azure. Ouais.
Exactement. Donc, ce stockage qualifié de premium, premium par ses performances et premium par son prix, hein, tu t'en doutes bien. On avait annoncé en fait ce stockage premium le 20 octobre dernier à TechEd. Et donc, désormais, la version préliminaire, qui n'est pas encore finalisée, est désormais disponible. Donc, en gros, on pourra désormais choisir deux types de stockage, soit le premium sur base de SSD, soit le standard sur base de disque dur traditionnel tel qu'il existe déjà aujourd'hui. Donc, ce stockage premium, il est destiné pour l'instant uniquement et avant tout pour les machines virtuelles qui ont besoin de fortes performances et d'une latence relativement faible. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait un grand nombre d'IO par seconde pour des workloads tels que par exemple SQL Server ou un CRM ou autre. Et l'idée, c'est qu'avec ces workloads, avec ce stockage premium, on pourra aller jusqu'à attacher en fait 16 disques durs virtuels de type premium à une machine virtuelle, ce qui fera environ, en additionnant les IO par seconde de chacun des disques et en les stripant avec un storage space, environ 50 000 IO par seconde par machine, avec une latence qui sera inférieure en fait à 1 milliseconde pour la partie tout ce qui est opération de lecture. Voilà. Donc, c'est plutôt assez intéressant. À noter par contre, c'est que ces machines virtuelles, en fait, ce stockage premium ne pourra être attaché aujourd'hui qu'à un nouveau type, une nouvelle série de machines virtuelles qu'on appelle la série DS. Donc ça veut dire que quand on sélectionne quel type de machine on veut créer, on a le choix entre le A, le D qui contient du SSD sur le disque volatile, on a la Godzilla, la G qui permet de faire du full SSD, la DS c'est un petit peu l'intermédiaire entre la série D et la série S. Donc on aura en fait dedans un disque de boot traditionnel plus un SSD et puis après on pourra en rajouter un certain nombre. Donc le nombre étant limité entre guillemets à 32, ce qui fera environ 32 Tera de données avec, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 50 000 IO par seconde pour cet ensemble. Là, on est vraiment dans la fourchette haute de cette gamme de machines virtuelles. Et alors, à noter, c'est que ces machines virtuelles, en fait, pour pouvoir les créer, il faut passer aujourd'hui dans la version préliminaire via le nouveau portail qui s'accède par portail.azure.com, pardon, et qui est donc la nouvelle interface, et c'est dans cette nouvelle interface qu'on va pouvoir voir les nouvelles machines virtuelles avec le stockage premium. Donc au préalable, il faudra créer un compte de stockage premium depuis la nouvelle interface, et ensuite créer une machine virtuelle en lui disant que ses disques durs seront stockés dans le compte de stockage premium. Bien entendu, on peut également créer une machine virtuelle de la série DS avec du stockage premium, directement en PowerShell avec un petit script. Pour cela, je vous encourage à suivre les liens que Pascal va vous mettre à disposition avec ce podcast.
Tout à fait, j'étais en train de regarder. Donc une machine standard de type DS, par exemple DS1, ce qui est la plus petite DS, elle a un core de CPU, elle a 3,5 Go de RAM, elle a un disque de système d'exploitation de 127 Go, comme classiquement, donc ce disque-là, c'est du classique. Et elle a un disque SSD local de 7 Go et la possibilité donc de rajouter deux disques de données supplémentaires de 1 tera chacun. Donc ce qu'elle a en SSD, en fait, c'est ce disque de 7 Go local. Et la plus grosse, si on regarde la DS9, elle a un disque SSD local de 227 Go.
C'est pas mal. Il manque plus qu'un petit volant en cuir, et là, je pense que on devient des hommes heureux.
Exactement. Et donc, pour terminer, cette nouvelle concernant Bing dans Office Online, j'en ai entendu parler justement hier. Tu peux nous rappeler de quoi il s'agit ?
Oh bah écoute, je pense que je vais te laisser le faire, parce que je sais que t'as adoré cette nouvelle.
D'accord. Donc, ce que j'ai entendu, hein, je ne l'ai pas personnellement encore expérimenté, mais dans la version online de, par exemple, Word, on peut, en sélectionnant du texte à l'intérieur du texte qu'on est en train de taper, demander à avoir des informations complémentaires via Bing, faire une recherche Bing. Par exemple, je suis étudiant, je suis en train d'écrire un rapport sur tel personnage historique, je sélectionne son nom et paf, je peux avoir automatiquement des informations sur sa vie, son œuvre et plus si affinité via Bing. Donc ça évite de faire des allers-retours de copier-coller entre ses recherches, son travail de recherche et le rapport qu'on est en train de taper. Donc ça peut être bon, ça peut être quelque chose d'intéressant.
En fait, tout cela va également bien, est dans la même mouvance que ce qu'on a annoncé très récemment cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, qui était la mort programmée, l'arrêt de tout ce qui est clipart, hein, au profit de l'insertion d'images directement via recherche depuis Office dans Bing, en fait. Donc, si vous utilisez Office 2013, vous avez probablement déjà fait insérer images, et jusqu'ici, il y avait deux options, soit insérer depuis les clipart de la galerie Microsoft, soit insérer depuis Bing. Désormais, on va privilégier d'insérer depuis Bing. Et puis Bing, on le retrouve également très utilisé dans Cortana.
Et oui, notre ami Cortana. Oui.
Et oui, donc Cortana qui est l'assistant personnel sur la toute dernière génération de système d'exploitation mobile, donc Windows Phone 8. Et donc Cortana est arrivé là encore cette semaine ou la semaine dernière en version préliminaire pour les développeurs, mais avec le support de la langue française. Donc si vous avez un téléphone Windows Phone et que vous le passez en développeur preview, vous pouvez activer également la version française de Cortana, qui du coup répondra à vos questions souvent par des résultats donc de Bing.
Et si vous voulez connaître le cri du dindon, vous demandez à Cortana quel est le cri du dindon et vous verrez.
Et Pascal, donc, du coup, je te pose la question, quel est le cri du dindon ?
Eh bien, en fait, je suis en train de démarrer mon Windows Phone que j'avais coupé pour ne pas perturber cet enregistrement. Mais on va essayer, on va voir si ça peut fonctionner. Voilà, Cortana.
Déjà, je peux déjà te dire la réponse, normalement. Mais je vais laisser Cortana parler, honneur aux femmes.
Alors, parler, ça va être en bien grand beau, hein. Quel est le cri du dindon ? Je ne sais pas si c'est bien passé.
Si. Effectivement, là, Cortana a renvoyé directement le cri du dindon. Et donc, pour notre moment culture de ce podcast, le cri du dindon, en fait, glougloute. Voilà. Donc, nous avons eu un bel exemple de glougloutage. Merci Pascal, un peu de culture ne fait jamais de mal.
Exactement. Ben merci beaucoup Stan pour ces infos fort intéressantes. Et puis, donc sans plus attendre, je vais passer à l'interview que j'ai faite ce matin avec Fabien Dibault, donc MVP PowerShell. Je suis donc en ligne avec Fabien Dibault, qui est MVP PowerShell, et qui nous fait le plaisir d'accepter de nous parler un petit peu de son expérience avec PowerShell, dont son métier et en tant que MVP. Donc bonjour Fabien, comment ça va ?
Salut Pascal, ça va bien et toi ?
Très bien, ma foi, on est vendredi, hein, donc c'est bientôt le week-end.
C'est ça, en plus il fait un soleil magnifique en Bretagne, là. J'irai. On pourra aller se baigner quasiment.
Il y en a qui ont de la chance. Et déjà merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu sais que tu es le tout premier invité de ce podcast, invité au sens interview entre guillemets.
Merci à toi de m'avoir proposé cette interview, ça fait plaisir.
C'est normal, et puis pour cette première, je suis ravi qu'on commence par toi, puisqu'on va parler de PowerShell, qui est ta spécialité. Et puis, de mon point de vue, c'est vraiment le meilleur, comment dire, le meilleur allié du professionnel de l'IT, hein, de l'IT pro, et qui est un petit peu méconnu, malheureusement, quand on discute un petit peu avec les professionnels en France. Mais on va en dire que du bien aujourd'hui, et donc on va les faire changer d'avis. Et donc déjà, pour commencer, Fabien, est-ce que tu peux nous présenter ton métier, ton activité, ton employeur? En fait, qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie?
Alors, dans la vraie vie, je travaille pour un groupement de cliniques qui s'appelle Vivalto Santé. On est basé à Rennes, hein, plus exactement à Saint-Grégoire. Je travaille au quotidien sur l'infrastructure des serveurs Windows, que ce soit les bases de données ou les serveurs applicatifs. On a 400 serveurs à peu près administrés. On est une petite équipe, hein, on est trois, donc du coup, ça donne un peu de travail. On travaille dans un environnement qui nécessite de la haute disponibilité, notamment pour tout ce qui est dans le cadre des blocs opératoires, des chimiothérapies, etc. Donc on doit garantir une infrastructure qui est disponible H24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Donc du coup, on a des fortes contraintes en termes d'infrastructure, en termes de redondance de sites, etc., pour permettre justement qu'il n'y ait pas de mort de patient, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, on s'appuie énormément sur tout ce qui est cluster, sur tout ce qui est mirroring pour les bases de données SQL Server, mais aussi bien pour le stockage aussi. Hein, on a deux sites relativement éloignés, et on peut perdre... Notre boulot, c'est faire en sorte que si on perd une salle, l'activité continue sur une deuxième salle, quoi. Voilà, on est vraiment sur un plan de continuité d'activité, le niveau au-dessus du PRA pour moi, quoi. Voilà à peu près ce qu'on fait au quotidien. Alors après, ça, vu qu'on est en client final, on a une activité qui peut être aussi bien sur du stockage, sur du réseau. Enfin voilà, on touche un peu à tout, quoi.
D'accord. Donc c'est intéressant comme activité. Je ne savais pas. Donc vous faites du du matériel qui est dans les hôpitaux et qui gère...
Non. Nous, on est un GIE qui travaille pour les cliniques, si tu veux. On leur propose du service, on leur propose des infrastructures qui vont héberger leur application, qui vont permettre de piloter le matériel qui, lui, est entièrement géré par des équipes qui sont qu'on appelle biomédicales et qui s'occupent uniquement des équipements paramédicaux, si tu veux, quoi.
D'accord.
On fonctionne en fait avec deux services, quoi. Il y a le pendant infra et le pendant biomédical, voilà, pour être plus précis, quoi.
D'accord. Donc tu as dit que vous étiez responsable de 400 serveurs. J'imagine que c'est l'une des principales difficultés que vous rencontrez, gérer 400 serveurs avec à 3 personnes, c'est ça?
Ouais, 3 personnes, ouais. Ça fait des journées chargées.
Et donc besoin d'automatiser un maximum.
Voilà, exactement. Bah, et c'est là que PowerShell au quotidien nous simplifie la vie, en particulier parce que je suis seul administrateur Windows dans l'entreprise. Et du coup, PowerShell, c'est vrai que par sa capacité à administrer des grappes de serveurs, des fermes de serveurs entières, ça nous permet de gagner non seulement en productivité, mais aussi en temps d'intervention, quoi. Quand on a déployé un patch sur, disons, 50 serveurs, parce qu'il y a un bug en production sur un logiciel, on arrive à le déployer de manière simple, intuitive, et en une seule ligne de commande sur tous nos serveurs, disons Citrix par exemple, qui permettent de corriger le problème et de garantir une rapidité d'intervention par rapport aux équipes qui sont, elles, en exploitation, et qui sont confrontés à un problème bloquant. Et donc, ouais, c'est ça, la contrainte, c'est de le résoudre le plus vite possible, sans coupure de production, parce qu'à chaque fois, encore une fois, la vie des patients est en jeu. Si, par exemple, sur une chimiothérapie, si le calcul du traitement n'est pas possible, la personne va devoir rentrer chez elle, ça va décaler son traitement et potentiellement déclencher d'autres problèmes plus graves pour elle. Donc vraiment, on travaille pour sauver la vie des gens.
C'est un beau métier.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, tu m'as dit que tu étais le seul à travailler sur Windows. Donc, vous travaillez en général sur quel type d'environnement? Et puis, pour ce qui est de Windows, sur quel niveau de version?
Alors, c'est très hétérogène, hein, comme environnement. On a encore des Windows 2000 en production, hein, pour tout ce qui est archivage des dossiers patients, typiquement.
Il faudrait que je te parle de la fin du support de Windows Server 2003, tiens.
Ouais. On a encore beaucoup de 2003 aussi, mais il y a des plans de migration qui sont en train de se mettre en place. Hein. Ça vient doucement, quoi. Mais c'est vrai que le monde de la santé, c'est un milieu vraiment, vraiment très hétérogène. Hein. On a de l'AX, on a du Solaris, on a du Linux, bien sûr, hein, différentes distributions. On a du Windows 2000, donc comme je disais, du 2003, du 2008, du 2008 R2, du 2012. Voilà, on est vraiment sur un panel très large de systèmes d'opération. Et du coup, ça provoque quelques contraintes, notamment pour l'utilisation de PowerShell, hein, qui malheureusement, sur des versions très vieilles de Windows, n'est pas possible. Mais on travaille au déplacement de ces serveurs-là, justement pour pouvoir garantir l'administration en grade de ces serveurs, quoi. Mais c'est pas une chose simple parce qu'on a des éditeurs qui bougent pas aussi vite que nous et qui certains même ont fermé depuis quelques temps. Donc c'est assez compliqué de porter des applications récentes, enfin anciennes, sur des serveurs récents, quoi.
Ouais, c'est un éternel problème, ça.
Ouais.
Et souvent dû au fait que certains fournisseurs d'applications sont un petit peu en position de monopole.
Ouais, il y a ça aussi, ouais, effectivement. Position de monopole ou clairement qui des fois manque de compétences en interne. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais on se retrouve sur ces difficultés-là assez régulièrement. Alors dans le même boulot, effectivement, il y a ça, mais PowerShell justement apporte des solutions sur ces problèmes d'hétérogénéité du SI, hein, en général, grâce à DSC notamment. Qui sur les versions plus récentes, hein, j'entends à partir de 2008 R2, de Windows 2008 R2, va nous permettre en fait de ne plus nous occuper justement des problèmes, comment dirais-je, matériel, driver ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que maintenant, quand nous on a un problème en production, on s'embête pas, on éteint le serveur, on le boot sur le PXE, et après il y a DSC qui va venir s'appliquer pour faire toute la conf, redéployer les applications, et nous derrière, on n'a plus rien à faire en fait. À partir du moment où on a créé notre configuration, si tu veux, Pascal, en fait, notre boulot consiste à juste redémarrer le serveur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Une fois que DSC a été poussé, les configurations ont été créées, le pool serveur va permettre de déployer les configurations de manière automatique. Après, ça se règle. Hein, par défaut, c'est toutes les 15 minutes, mais ça peut être aussi toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures. On choisit comme on veut. Et ça permet justement donc soit d'appliquer des correctifs sur la masse de serveurs, soit de complètement recréer un serveur from scratch sans avoir à mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, quoi.
Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que DSC, c'est une nouveauté qui date de PowerShell V4, donc de la génération Windows Server 2012 R2. Ou
Ouais.
2012 R2, oui.
Ouais, mais tu peux aussi l'utiliser sur du 2008 R2 ou du 2012, bien
Voilà,
sûr.
on peut, en mettant à jour PowerShell en V4.
C'est ça, tout à fait. Tout à
Voilà.
fait.
Donc DSC, ça veut dire Desired State Configuration. Est-ce que tu
Ouais.
peux décrire en quelques mots le principe
Alors, le principe de DSC, il faut savoir qu'il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode push, où là, on exécute une configuration comme n'importe quel script PowerShell sur un serveur local, qui va aller s'appuyer, alors je vais essayer de pas trop technique, mais qui va s'appuyer sur quelque chose qui s'appelle le LCM, c'est le Local Configuration Manager, qui est en fait un genre d'agent, si on peut dire ça, qui sera sur chaque serveur Windows, donc qui aura le framework 4 minimum de PowerShell. Et donc ce LCM va être capable d'appliquer les configurations qui sont créées dans le script DSC pour les appliquer sur le serveur. Voilà, DSC ça fonctionne en trois parties. Il y a une première partie qui va tester la configuration. Voilà, si ça match ce qu'on lui a demandé comme configuration, il va rien faire. Il y a une partie qui va récupérer la configuration pour tout ce qui est reporting. Hein, on peut très bien imaginer créer des scripts pour faire des gros tableaux super sympas. Et il y a une troisième partie qui va configurer le serveur en fonction de ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que on peut lui passer différents arguments, hein, en fonction de ce qu'on a besoin. Et derrière, ça va permettre de changer une partie, une autre partie, ou toute la configuration du serveur, en fait. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va s'appliquer en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est la partie push. Et la partie pull, en fait, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, quand nous on déploie un nouveau serveur maintenant, ou quand on répare un serveur. On crée cette configuration pour un serveur. Après, on peut la dupliquer pour tout autant de serveurs, mais on l'a créée principalement pour un serveur. Et par un service web, ça s'appuie sur du 2IS, le pool serveur, par le biais d'un service web, chaque local configuration manager va être capable d'aller récupérer sa configuration qui est l'appliquer sur le serveur. Voilà, et de manière automatique. C'est vraiment. Ça fait partie de la culture, entre guillemets, intégration continue, tout ce qui tourne autour du DevOps, terme que tu as déjà sûrement entendu parler, Pascal.
Et oui, effectivement. DevOps, c'est un petit peu le sujet à la mode et on en reparlera beaucoup d'ailleurs au Tech Days prochain, mais on va en reparler tout à l'heure. Donc DSC, au départ, quand c'est sorti, hein, DSC avec PowerShell V4, il y avait très peu de ce qu'on appelle de ressources DSC, c'est-à-dire d'objets qu'on peut configurer, enfin d'éléments de configuration qu'on peut inclure dans sa config. Ouais. Depuis, ça a beaucoup évolué et régulièrement. Je crois qu'on est à la version 8 du ressource kit
du WebKit.
Ouais.
Exactement.
Voilà. Exactement. Quel genre d'objets est-ce que chez vous vous développez ou est-ce que tu développes des ressources DSC ou est-ce que tu utilises ces ressources qu'on met à jour tous les mois chez Microsoft ou comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors. Il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, il faut savoir que les ressources qui sont créées par Microsoft, généralement, fonctionnent uniquement sur 2012 R2. Parce que eux, je pense que c'est les besoins que vous avez dans l'entreprise et du coup, pour des clients, vous les développez et après, vous les mettez à disposition. Donc, du coup, certaines ressources, on se les accapare et on les modifie pour qu'elles matchent notre environnement. Hein, notamment sur tout ce qui est configuration IP, etc. Les commandes net n'existent pas sur Windows 2008 R2. Donc on est obligé de les modifier. Et malheureusement, actuellement dans DSC, on ne peut pas encore tout faire avec les ressources fournies par Microsoft, entre autres. Hein, il faut savoir qu'il y a une communauté qui est assez importante là-dessus. Donc on fait aussi nos propres ressources et dans un cadre, entre guillemets, open source, on les met à disposition sur Internet pour que les gens puissent les utiliser aussi à leur bon vouloir et les modifier ou les améliorer hein, s'il y a besoin pour eux. Hein, du coup, c'est vraiment quelque chose. Les ressources, il faut savoir que c'est des espèces de fonctions qui sont intégrées au script de configuration DSC qui vont vous permettre justement d'aller configurer tel ou tel module, paramètre, telle ou telle application dans votre...
Des éléments de configuration, quoi. Des...
Ouais, c'est ça.
Web,
ouais.
Un site, je sais pas, une base SQL.
Base SQL, ouais. DHCP. Enfin, voilà, on peut imaginer faire un peu tout ce qu'on veut avec des ressources. Typiquement, nous, on s'est aperçu qu'il manquait des modules, il manquait une ressource, pardon, pour configurer les services SNMP sur nos serveurs. Donc, on a créé notre ressource, on l'a testée, on l'a validée. Et une fois qu'elle était utile pour nous et utilisée, on s'est dit qu'il était temps de la partager parce qu'on la trouvait complètement fonctionnelle pour n'importe qui souhaitant utiliser DSC à ce sujet-là.
D'accord. C'est une utilisation vraiment avancée de DSC, le fait de décrire soi-même des ressources DSC. Et c'est ce dont parle souvent Jeffrey Snover, hein, qui est le créateur de PowerShell et dont la vision ultime, c'était un petit peu DSC d'ailleurs. Il dit, ouais. En fait, à l'avenir, il y aura deux types d'administrateurs. Il y a ceux qui vont être super chers, super compétents parce qu'ils savent écrire des ressources DSC et puis ceux qui vont les utiliser derrière, en fait.
Effectivement, c'est ça. Mais, et de toute façon, PowerShell, justement, notamment avec l'arrivée de la version 5, rentre de plus en plus dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il y aura les personnes qui feront de l'IT classique, qui administreront leur serveur de manière en ligne de commande comme tout bon administrateur système devrait le faire, et il y a les personnes qui vont rentrer plus dans une phase DevOps, développement vraiment de script, hein. L'arrivée de classes notamment dans PowerShell V5 rentre totalement dans cette ligne de conduite, c'est-à-dire que maintenant dans PowerShell vous pouvez faire vos scripts hein, toujours comme avant, mais on peut maintenant aussi aller créer des petits programmes et compiler carrément des ressources, des, des modules dans PowerShell en s'appuyant sur sur quelque chose qui ressemble énormément à du C#, bien entendu. Hein, on reste quand même sur un framework .NET, mais on a la possibilité maintenant de créer des classes et de les utiliser dans notre script PowerShell. Et ça, c'est une des grandes nouveautés, à mon avis, de la version 5 de PowerShell. Entre autres, hein, on pourra parler, je ne sais pas si tu pensais y revenir, mais on pourra parler aussi de 2-3 autres choses qui sont très, 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 très intéressantes et qui, à mon avis, vont faire des émules dans le monde Windows. Et on pourra enfin se mettre au niveau des Linuxiens sur certains points. Et ça, c'est bien.
Et bah, tu fais ma transition pour moi, justement. Donc, on allait parler de PowerShell V5, effectivement. Donc, PowerShell V5, il est prévu pour sortir avec Windows 10 et Windows Server VNext, donc le serveur associé à Windows 10. Il est déjà disponible en version preview, hein, donc il y a une pré-version disponible en téléchargement gratuit et qu'on peut installer sur les versions précédentes, donc sur je sais pas, Windows 8.1, Windows 8.
8.1, il me semble, et 2012 R2, hein, uniquement. 2012 R2. Depuis le mois de septembre, il y a eu deux previews qui sont sorties. La première a apporté donc les classes, hein, comme je vous le disais. Et la deuxième preview qui est sortie, la dernière qui est sortie au mois de novembre, apporte quelque chose qui s'appelle OneGet. Alors OneGet, pour ceux qui ne connaissent pas, OneGet, c'est génial. Ça ne fait pas encore le café, mais ça apporte presque. Ça vous apporte quelque chose qui manquait énormément dans l'univers Microsoft, hein, que... qui est vraiment le socle de base de tous les systèmes Unix et Linux dans le monde entier, c'est la gestion de package dans Windows. Ça y est, enfin, on y arrive. Et ça se base encore sur Nuget, hein. c'est pas complètement intégré dans PowerShell, à mon avis, mais c'est quelque chose qui va vous permettre bah, d'aller récupérer une liste de package, d'aller chercher un logiciel qui vous intéresse, et de l'installer, voilà, tout simplement en une ligne de commande. Pour l'instant, il y a Chocolatey et il y a PS Gallery qui sont des providers entre guillemets sur lesquels on peut aller chercher des paquets. Hein, c'est un peu comme un dépôt de repository Linux, de paquets Linux plutôt. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi créer vos propres repositories, packager vos applications que vous utilisez en interne. Et pouvoir déployer ça de manière très simple sur tout votre parc serveur et le coupler à DSC. Et c'est là que ça va être génial, quoi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, en fait, dans DSC, il y a une ressource qui s'appelle package dans DSC, et donc ce package-là pourra normalement aller s'appuyer sur ces ressources créées pour aller les installer automatiquement sur vos serveurs par le biais de configuration DSC, quoi. Voilà, c'est quand même...
Donc un nouveau serveur qui s'installe va pouvoir tirer sa config DSC en mode pool. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein.
Ah ouais, non, c'est ça.
Et puis dans cette config, on va pouvoir dire, bah tiens, je veux qu'il y ait telle application tierce qui soit installée sur le serveur. Alors je ne vais pas citer le nom, mais une base de données quelconque.
Ouais, c'est ça, exactement. N'importe quoi, en fait. Hein. À partir du moment où tu l'as packagé, alors pour le packager, il faut créer une installation silencieuse, il faut créer un script PowerShell qui va configurer le logiciel, comme toi tu le veux. Mais derrière, voilà, t'arrives, à mon avis, on arrive clairement sur la vision de départ qu'avait Jeffrey Snower, c'est-à-dire de pouvoir administrer un serveur Windows uniquement en ligne de commande, sans passer par des outils type DISM ou des choses comme ça, quoi. Vraiment, c'est, voilà, que ça soit plus uniquement une couche d'abstraction, mais vraiment quelque chose qui englobe le système globalement et qui permet de tout faire en PowerShell, quoi. Voilà, alors après, il y a d'autres nouveautés qui sont sorties avec la V5 de PowerShell. Il y a quelque chose de génial. Je ne sais pas si toi, Pascal, tu fais beaucoup de regex tous les jours.
Mais... non, ce n'est pas ma tasse de thé tous les jours, non.
Ouais,
on bah, y est plein,
je pense. Et du coup, ils ont pensé à nous, chez les équipes de développement de PowerShell. Ils ont créé Convert from String. C'est quelque chose qui va nous permettre... qui va permettre en fait aux gens qui utilisent PowerShell de faire des expressions régulières tout en sachant pas en faire. C'est là que c'est génial, c'est-à-dire que on prend la ligne, le fichier, le peu importe, on prend ce qu'on veut parser, ce qu'on veut récupérer.
Ouais.
Et on crée un template par rapport à ça en mettant juste une petite étoile sur le mot qu'on veut enlever ou des choses comme ça, Et derrière, ça génère du regex pour nous et ça nous sort notre résultat. Voilà, c'est un peu. Ça nous facilite la vie au quotidien. Sincèrement, c'est quelque chose qui, moi, va m'éviter beaucoup de cheveux en moins dans le futur. Ouais, c'est si sûr.
D'accord. On
Voilà.
en saura plus très bientôt.
Ouais,
On en parlera au Tech Days. Il y a un article qui a été fait par quelqu'un que tu connais, Carlo.
Oui, Carlo, ouais, qui a, sur son
Carlo.
blog,
Carlo Tierney, ouais.
qui a testé ça, qui a poussé un peu dans ses retranchements le fonctionnement de Convert from String. C'est compliqué à dire, hein,
Ouais,
quand
mais bon.
même. Ouais. Et du coup, je vous invite vraiment à lire l'article et je vous invite aussi à tester, hein, du coup, hein, si vous avez des 2012 R2 sur des environnements de calife ou de test, n'hésitez pas à mettre la V5 de PowerShell et jouez avec, vous allez voir. Il y a plein de petites améliorations dans le fonctionnement, on peut pas en parler, on peut pas tout énumérer, mais même dans la console ISE pour faire du développement, pour vos scripts, vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés et des petites choses qui simplifient la vie. Et vraiment, allez tester cette V5, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Hein. Et
Ok.
en plus, elle est quasiment pas buggée, quoi.
Ah bah alors, c'est magnifique. À propos donc de ces nouveautés, les articles dont on parlait et tout ça, je mettrai les liens évidemment dans l'article lié à ce podcast pour que tout le monde puisse retrouver tout ça. Bon, bah, c'est pas mal, on a bien fait le tour des principales fonctionnalités de PowerShell que tu utilisais, dans quel cadre, etc. Alors. Passons à autre chose. Donc, tu es MVP PowerShell. Hein. MVP, donc c'est un, je sais pas comment qualifier ça. C'est un programme Microsoft Most Valuable Professional.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Je sais pas si tu voulais continuer ton
Ouais.
intro.
Était donc une des références en France de PowerShell. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la communauté PowerShell en France, si elle existe et s'il y a des choses bien qui sont faites, des choses qui pourraient être améliorées, enfin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Alors, je pense que pour la communauté, il faut pas se limiter, à mon avis, surtout au niveau du programme MVP, à un pays. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est mondial. Être MVP, en fait, ça permet de communiquer avec des personnes qui sont hyper douées et qui partagent leur savoir, en fait. Hein, être MVP, c'est vraiment, voilà, c'est avoir une envie de partager et ça amène beaucoup de rencontres, beaucoup de nouveautés et beaucoup de découvertes, en fait, sur sa technologie, mais pas que, en fait, hein, mais pas que. Plus particulièrement sur PowerShell où comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment les deux mondes. Hein. Il y a une partie qui sont énormément axée développement et une partie qui est vraiment orientée infra. Et du coup, ça permet de confronter les points de vue et ça permet de ressortir des bonnes idées pour son travail au quotidien ou même pour faire des articles sur des blogs ou proposer des sessions dans des user groups ou des choses comme ça et essayer de promouvoir, en fait, l'outil PowerShell en lui-même hein, aux Français, en France particulièrement, parce que on se rend compte, comme tu disais tout à l'heure, que c'est un outil qui est un peu méconnu, qui est sous-estimé à mon avis et à l'avis de beaucoup de personnes. Et notre boulot en tant qu'MVP, c'est un peu d'être des porte-parole de cette technologie-là et d'apporter et d'aller prêcher la bonne parole, si on peut dire ça comme ça, hein, justement aux utilisateurs qui malheureusement, eux, n'ont pas le temps d'aller tester tous les produits qui sortent, etc. Donc nous, notre boulot, c'est leur dire, voilà, là, il y a une solution qui va vous aider, qui va vous faire du bien. Et il faut que vous voyez ça, et ça, et ça, et ça. Et nous, notre boulot, c'est un peu ça, quoi. Alors après, en France, la communauté PowerShell, elle n'est pas très, très active. Il y a un gros site qui est dirigé, enfin qui est tenu entre guillemets par Arnaud Petitjean, un autre MVP PowerShell français. Malheureusement, ça n'arrive pas à créer l'émulation autour. Si tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Il y a pas beaucoup de gens qui sortent de là en se disant, tiens, ben moi je vais monter un user group, moi je vais faire ça. Mais du coup, on y travaille, hein, avec Emin Attack, un autre MVP PowerShell français. On essaie de mettre en place un formulaire, un questionnaire pour aller le proposer justement sur les Tech Days pour voir si les gens seraient intéressés par la création d'un user group au niveau français Donc pas besoin de se déplacer sur Paris pour des réunions, on ferait ça en ligne et on permettrait aux gens de proposer, de donner les idées, qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre dans ces choses-là, dans ces réunions-là. Et nous, notre but, ça serait de trouver les intervenants ou de faire les présentations des fonctionnalités qu'ils connaissent pas, qu'ils veulent apprendre ou des choses comme ça. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on est en train de travailler, parce que pour l'instant, en France, il n'y a pas une grosse communauté PowerShell. Ouais.
Ok. Donc il y a des choses à faire et c'est tant mieux,
Ouais,
finalement.
ah ben ça
Parce
c'est sûr.
que hein, sinon on s'ennuierait un petit peu. ça fait au moins 2 fois qu'on cite les Tech Days. Et donc malgré tout ce que tu fais, ton travail, tes activités, le fait que tu sois MVP, etc., tu trouves encore le temps de venir parler aux Tech Days. Et donc tu vas encore venir passer 2 jours à Paris en février prochain, je crois.
C'est ça,
Est-ce que
hein?
tu peux nous raconter un petit peu les sessions que tu vas faire si tu en connais un petit peu le détail aujourd'hui?
Bah déjà, c'est un plaisir d'avoir la possibilité de présenter des sessions au Tech Days cette année à nouveau, enfin l'année prochaine. C'est hyper important, à mon avis, pour des technos comme PowerShell d'avoir un peu de visibilité comme ça sur des gros events. Hein. Je crois qu'on parle du plus gros event IT en France, voire même en Europe, gratuit, hein, si je me trompe pas.
En tout cas, le plus gros événement Microsoft d'Europe.
Ouais, c'est quand même pas mal. Ça permet un peu de visibilité quand même. Et pour une techno, entre guillemets, orpheline comme PowerShell, merci en tout cas de nous permettre ça, Pascal. Et donc du coup, ouais, on va présenter 2 sessions cette année qui vont parler de PowerShell au Tech Days. Moi, j'ai la chance d'être sur les deux. Ça va faire beaucoup de travail, mais on va y arriver. La première, donc on va parler avec Carlo Mancini et toi, Pascal, hein, si mes souvenirs sont
Eh ben, écoute, on va essayer.
bons. Des principales nouveautés de PowerShell. Donc, notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, les classes. On va parler aussi de DSC. Hein, je pense que ça me paraît une bonne idée. Donc on va aussi parler de Convert from String et de toutes les autres petites nouveautés, je pense, qui simplifient la vie au quotidien et qui méritent d'être abordées. Voilà, en 45 minutes, ça va être rapide, mais je pense que si vraiment PowerShell vous intéresse, que vous voulez mettre un premier pied dedans, ou alors vraiment voir les dernières nouveautés sans avoir vous à passer du temps à les tester, on a fait ce boulot pour vous et on va vous le présenter de manière ludique avec un certain nombre de démos. Hein. Je pense que une démo vaut mieux que beaucoup de mots.
Tout à fait.
Voilà. Et
Plutôt que des mots, des mots.
voilà. Et voilà. Et du coup, la deuxième session sera plutôt orientée sur un sujet à la mode chez Microsoft aussi, sur Azure. Et Azure et DSC. Donc, DSC, on en parlait tout à l'heure pour plutôt du bare metal deployment ou de la correction ou de l'application de configuration sur vos serveurs, sur vos VM. Il faut savoir qu'aussi, avec DSC, vous pouvez. Il y a une ressource dont on a parlé tout à l'heure qui vous permet d'utiliser DSC avec Azure. D'utiliser vos configurations que vous avez faites pour votre déploiement on-premise et de les utiliser sur Azure de manière très simple. Et ça va, à mon avis, c'est une fonctionnalité très importante de DSC. Et dans Azure, à mon avis, c'est quelque chose qui est primordial de pouvoir faire d'intégration continue sur vos VM, sur vos infrastructures de production, pour faire du site web ou je ne sais quoi. Hein, ça fait partie des choses qui, à mon avis, dans le futur, seront indispensables pour tout administrateur Azure ou on-premise, ou les deux.
Super. Donc une session très orientée nouveauté qui sera dans le track, dans le thème Windows, mobilité, parce que ça tombait bien de caser cette session là-dedans. Et puis la deuxième, donc dans le domaine serveur, cloud, administration, etc. Donc très orienté DevOps, et voilà, c'est deux très bons thèmes pour PowerShell. Super.
Ouais. On a eu de la chance, on a eu 2 sessions de retenue.
Ce qui n'est pas évident au premier abord.
Ah non, c'est clair.
Donc justement, les Tech Days, donc, rappelons que ça a lieu les 10, 11 et 12 février prochain, 2015. Et le site vient d'ouvrir. Donc je mettrai l'URL également sur le, dans l'article. Et le site des Tech Days, voilà, mstechdays.fr. Donc le site est ouvert, vous pouvez vous inscrire. Toutes les sessions ne sont évidemment pas en ligne, c'est pas encore publié, mais ça ne va pas tarder, il va y avoir de la publication la semaine prochaine. Donc vous pourrez consulter tout ça la semaine prochaine. Ça ne sera pas encore une liste définitive de sessions avec le planning définitif, etc. Mais vous aurez déjà une bonne idée de ce que vous allez voir. Et déjà, il y a des sur le site une description du principe des Tech Days de cette année, les grands thèmes, etc.
Donc, ambient intelligence, pardon.
Ambient intelligence. Donc pour terminer, Fabien, si on veut te suivre et te retrouver ce que tu publies et voir tes tweets, hein, quelles sont tes coordonnées à retenir ?
Alors, je tweete énormément sur PowerShell et vous pouvez me suivre sur @fdibot sur Twitter. Hein, c'est la première lettre de mon prénom et mon nom de famille. J'ai un blog aussi, par contre en anglais, malheureusement, où je parle uniquement de PowerShell et donc notamment énormément de DSC. On propose des ressources donc à utiliser pour vos configurations et l'URL c'est pwrshe2l.net. Voilà, ça vous permettra en fait de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec DSC. Et j'espère vous donner envie d'utiliser. Et c'est tout.
Ok, donc c'est powershell.net avec le power écrit PWR, c'est ça ?
Ouais, l'URL était prise. En tout cas, merci de m'avoir invité, hein, Pascal, ça m'a fait plaisir. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir un peu de plus près PowerShell, notamment la V5. Et surtout, n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez des questions sur Twitter ou sur mon site web. J'y répondrai avec plaisir et vraiment, ouais, n'hésitez pas, même si c'est des questions qui vous paraissent un peu débutants, aucun souci, je vous répondrai.
Merci beaucoup Fabien donc, d'avoir répondu à mon invitation et puis d'avoir inauguré ces témoignages, un petit peu de vraie vie des gens qui vivent nos technologies au quotidien, ça fait du bien. Et puis on se revoit donc très bientôt, au moins au Tech Days, voire avant, ouais. Pour préparer notre fameuse session d'ailleurs. Donc merci Fabien, à très bientôt.
Merci à toi Pascal, bonne journée.
Et donc comme vendredi dans 15 jours tombe le 26 décembre, ce serait un petit peu bête de sortir un podcast à ces dates-là où vous aurez certainement autre chose à faire qu'à écouter les actualités concernant les technologies Microsoft. Donc je vous donne rendez-vous plutôt début janvier et puis je vous préviendrai par Twitter ou autre moyen de la date de publication du prochain. Donc merci à tous et à bientôt.